Money, 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 la monnaie dans tous ses états. Saviez-vous que chaque jour, de la monnaie était créée? On a tendance à imaginer que la quantité de monnaie disponible est une véritable contrainte avec laquelle il faut savoir vivre. On aimerait bien pouvoir construire de nouveaux hôpitaux publics, de nouvelles voies de chemin de fer pour des trains à grande vitesse qui nous permettraient de réduire nos émissions de CO2, des logements sociaux modernes et agréables à vivre, des centrales solaires et des éoliennes pour décarboner notre production d'énergie. Mais tout cela coûte cher. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Eh bien, détrompez-vous. L'argent n'est, ou plutôt ne devrait jamais être, un problème. Pourquoi? La grande question de la création monétaire. Imaginez que l'économie mondiale puisse se réduire à un petit village autonome. Qu'est-ce qui empêche les gens de ce village de s'associer pour construire des écoles, des routes, des éoliennes, des ponts, des hôpitaux? L'économie mondiale réduite à un petit village. Il n'y a qu'un seul obstacle, celui des ressources. Sont-elles suffisantes? Construire un pont suppose d'avoir suffisamment de connaissances pour délivrer un ouvrage durable et sûr. Cela suppose aussi d'avoir un mode de production de nourriture suffisamment efficace pour pouvoir mobiliser une force de travail importante et sur une durée relativement longue, sans que personne ne meure de faim. Il faut également penser aux matériaux de construction, bois, métal, cordage, mortier, qui seront utilisés. Si toutes ces ressources sont disponibles, qu'est-ce qui empêcherait les villageois de construire le pont dont ils rêvent? La monnaie? Pourquoi? Les hommes n'ont pas attendu l'invention de la monnaie pour s'organiser et construire ce dont ils avaient besoin. En réalité, la monnaie est une invention humaine supposée aider une société complexe et comportant de nombreux individus à devenir plus efficace. Ainsi, pourquoi la monnaie devrait-elle être un frein? Comment est-il possible qu'un projet que tout le monde juge utile et pour lequel toutes les ressources, forces de travail, technologies et matières premières sont disponibles, puisse ne pas voir le jour à cause d'un problème de financement? N'est-ce pas là la preuve que la société fonctionne très mal? La monnaie comme le sang de l'économie. Prenons, sur les 20 dernières années, la quantité de monnaie en circulation en zone euro, c'est-à-dire la somme de la monnaie inscrite sur les comptes des agents économiques. Elle passe d'un peu moins de 2 000 milliards d'euros en 1999 à presque 9 000 milliards en 2019. Normal, me direz-vous, la population augmente et la croissance économique aussi. Et vous avez bien raison. Si l'économie était un corps vivant, sa croissance nécessiterait une quantité toujours plus importante de sang afin de pouvoir transporter nutriments et oxygène aux muscles et organes, devenant de plus en plus volumineux. Or, la monnaie est le sang de l'économie. Ainsi, la croissance de l'économie, en termes de PIB et de personnes, nécessite un apport constant de nouvelles monnaies. La question se pose donc, s'il est certain que de la nouvelle monnaie doit être intégrée au système économique pour permettre sa croissance, comment celle-ci est-elle injectée? Pouvez-vous imaginer qu'en allant consulter votre boîte aux lettres, un matin, vous puissiez y trouver 500 nouveaux euros que vous seriez libre d'utiliser à votre guise? Évidemment non. Alors, comment cela se passe-t-il? Le monde merveilleux des théories de la monnaie. Vous seriez en droit de croire que les économistes sont des experts du sujet monétaire et qu'ils en maîtrisent tous les tenants et aboutissants. Il n'en est pourtant rien. S'il est évident pour tous que la monnaie est stockée sur des comptes courants et des comptes d'épargne, ouverts dans des établissements financiers que l'on appelle des banques de dépôt ou des banques commerciales, à ne pas confondre avec les banques d'investissement s'il vous plaît, mais nous y reviendrons, il existe trois grandes théories sur le mode de fonctionnement du système bancaire et la création de la monnaie. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est pourtant une réalité. Les économistes fabriquent des plans de la plomberie économique. On parle de modèles, en se demandant comment fonctionnent les différents acteurs qu'ils y placent. Puisque les banques jouent un rôle majeur, il faut commencer par comprendre comment elles fonctionnent, afin de pouvoir correctement les intégrer au plan. Or, dans ce cas précis, plutôt que de mettre les mains dans le cambouis et d'aller se renseigner sur place et de comprendre comment une banque de dépôt fonctionne réellement, les économistes ont eu tendance à rester devant leur feuille de papier et à théoriser les choses. D'où l'existence de trois théories du fonctionnement des banques, desquelles découlent différentes manières d'approcher le concept de monnaie, et donc l'économie dans son ensemble. Nous allons donc brièvement décrire les différentes théories bancaires qui permettent de définir la monnaie et souligner celles qui, d'après les expériences réalisées, car oui, certains économistes ont tout de même fini par aller mettre les mains dans le cambouis, semblent être la meilleure. Il y a trois théories majeures sur la création monétaire. La première, la théorie des intermédiaires, ou théorie des fonds prêtables. La deuxième, la théorie des réserves fractionnaires, ou théorie de la création monétaire exogène. La troisième, la théorie de la création monétaire ex nihilo, ou théorie de la création monétaire par le crédit, ou encore théorie de la création monétaire endogène. La théorie des intermédiaires. Si l'on pose que les dépenses font les revenus et que les revenus font les dépenses, ce qui est faux, mais nous y reviendrons plus tard. Alors, le fonctionnement, très simplifié, de l'économie pourrait se résumer ainsi. 1. Les revenus permettent les dépenses. 2. Les revenus permettent également les dépôts bancaires, la monnaie que vous avez sur votre compte, ce qui correspond à l'épargne. 3. Une partie de l'épargne est utilisée par les agents économiques par le biais de leur carte de paiement. 4. Une autre partie de l'épargne est utilisable par des intermédiaires financiers composés des banques de dépôt elles-mêmes et des fonds d'investissement. Les premières ont un accès direct à l'épargne que leurs clients, particuliers, entreprises et États, n'utilisent pas. La banque ferait donc ce qu'elle veut de vos économies. En revanche, les seconds doivent disposer d'un mandat pour pouvoir utiliser l'épargne. Particuliers, entreprises et États doivent faire une démarche spécifique pour que les fonds d'investissement aient accès à leurs économies. Même si la simplification est grande, vous pouvez pour le moment garder à l'esprit que les fonds d'investissement représentent les marchés financiers. 5. Les intermédiaires financiers que sont les banques de dépôt et les fonds d'investissement investissent l'épargne. Les agents économiques font des demandes à ces intermédiaires afin qu'ils financent leurs projets, leurs dépenses. Une théorie un peu simpliste. D'après cette description, quel est le rôle du système bancaire qui, avec les fonds d'investissement, participe à ce que je vais appeler le système financier? Sa mission est double. Collecter les dépôts des agents économiques d'une part, garder nos économies, quoi. Prêter de la monnaie aux agents économiques pour qu'ils réalisent leurs projets de l'autre, nous accorder des prêts, donc. Les agents économiques, particuliers, entreprises ou États, confient leur épargne aux banques de dépôt qui se chargent ensuite de faire crédit à d'autres agents économiques s'ils en font la demande, s'il y a suffisamment d'épargne et si les banques les jugent dignes de confiance. De cette observation, collecte des dépôts d'un côté, crédit de l'autre, on a vite fait de penser que les banques, comme les fonds d'investissement, ne sont que des intermédiaires. La monnaie que ces derniers peuvent prêter d'un côté doit donc être déposée par les épargnants de l'autre. Cette vision simpliste du rôle des banques est relativement moderne. Les principaux modèles macroéconomiques utilisés par les grandes institutions internationales, FMI, Fonds monétaire international, Banque mondiale, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, Banque centrale, bref, un peu tout le monde, n'intègrent même pas de système financier ou, s'ils le font, ils le modélisent sous la forme d'un simple entremetteur. Ces modèles macroéconomiques, à la manière des modèles météo qui prédisent le temps qu'il fait, sont supposés prédire la tendance que vont prendre les grands indicateurs que sont le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d'inflation, etc. Les modèles utilisés par les grandes institutions internationales sont souvent de type DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium. En effet, si les banques et les marchés financiers ne sont que des intermédiaires, alors à quoi bon s'embêter à démêler un tel sac de nœuds ? À quoi bon chercher à comprendre les détails ? Autant simplifier les choses et accorder son temps à d'autres problématiques. Les intermédiaires financiers prennent de la monnaie d'un côté, moyennant le paiement d'un intérêt aux épargnants, pour la prêter de l'autre. Circuler, il n'y a rien à voir. Le problème de cette théorie très simpliste du rôle du système bancaire, c'est qu'elle ne permet pas d'expliquer les crises financières qui ont régulièrement frappé l'économie mondiale, et dont les plus importantes sont la Grande Dépression des années 1930, le krach de 1929, et la Grande Récession de la fin des années 2000, la crise des subprimes. Plus précisément, elle ne peut les concevoir que comme de simples coups de malchance. Le système marche très bien la plupart du temps, mais parfois, pour des raisons que l'on ne sait pas déterminer, il y a un petit bug, une crise économique majeure. Pas vraiment un modèle satisfaisant, donc. Une théorie qui n'explique en rien la création monétaire. L'autre problème de la théorie des intermédiaires, c'est qu'elle n'explique pas non plus comment la monnaie est créée. Vous me direz qu'il est très étonnant que des économistes puissent défendre une théorie monétaire qui ne tient pas compte de la réalité, et j'en conviendrai. Si on constate qu'il y a de plus en plus de monnaie dans l'économie, il faut bien avoir une théorie monétaire qui explique cet état de fait. Le problème de la science économique, c'est qu'étant donné la grande complexité de notre système, il faut parfois simplifier. Or, une grande partie des économistes pense que l'étude de la monnaie est peu pertinente et que l'on peut simplifier les modèles en ignorant purement et simplement son existence. Il s'agit là d'un vieux débat entre économistes dont nous parlerons un peu plus tard. Passons donc à la deuxième théorie. La théorie des réserves fractionnaires. Si on posait la question de l'origine de la création monétaire aux gens, je suis convaincu qu'il répondrait majoritairement que celle-ci est initiée par les gouvernements, et ils auraient en partie raison. En effet, les banques centrales, comme la Banque de France, la Banque centrale européenne ou encore la Réserve fédérale, Fed pour les intimes, aux États-Unis, possèdent ce que l'on appelle une planche à billets. Attention, la monnaie est en partie physique. Les banques centrales peuvent faire imprimer des billets de banque, mais elle est surtout en grande partie informatique. En zone euro, 85% de la monnaie n'est rien de plus qu'une suite de lignes de code dans des ordinateurs. Cela ne devrait pas vous surprendre plus que ça. Après tout, la monnaie papier est de moins en moins utilisée. Vous payez probablement davantage par carte, par virement, voire peut-être encore par chèque, plutôt qu'en pièces et en billets. En revanche, non seulement les banques centrales ne créent pas toute la monnaie, c'est l'idée principale derrière la théorie des réserves fractionnaires, mais en plus, elles ne reçoivent pas leurs ordres des gouvernements. En effet, la grande majorité des banques centrales sont aujourd'hui plus ou moins indépendantes du pouvoir des États. Par exemple, les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni ou des États-Unis doivent rendre des comptes à leurs gouvernements respectifs, mais elles restent largement libres de leurs décisions. La Banque de France, comme toutes les autres banques centrales des pays membres de la zone euro, est sous l'autorité de la Banque centrale européenne, BCE, qui, elle-même, est la banque centrale la plus indépendante du pouvoir politique au monde. Elle ne rend de compte à personne. Oups. Pourquoi les banques centrales sont-elles indépendantes ? Parce que dans les années 1970, un certain Milton Friedman, dont nous reparlerons, a lancé l'idée selon laquelle les gouvernements, quand ils financent leur déficit public auprès de leur banque centrale, ajoutent de la monnaie dans l'économie, ce qui provoque de l'inflation, hausse des prix. On a pu constater depuis que cela n'était pas forcément le cas, et même qu'il n'y a pas de raison, hors période de plein emploi, pour que ce le soit. Mais l'idée est restée. Voilà donc pourquoi les banques centrales demeurent indépendantes. Le pouvoir de création monétaire a été ôté aux États de peur qu'un financement excessif des déficits publics ne provoque de l'inflation. La Banque centrale en contrôle absolu de la quantité de monnaie présente sur le marché. Passons sans plus attendre à une explication du processus de création monétaire tel que décrit par la théorie des réserves fractionnaires. Nous allons commencer par poser trois hypothèses. Premièrement, les agents économiques, particuliers, entreprises et États, se trouvent en possession de la monnaie centrale émise par la Banque centrale. Vous voulez savoir comment? En vérité, l'explication importe peu. La Banque centrale pourrait choisir de créer de la monnaie puis de la prêter, ou bien d'acheter quelque chose avec. Deuxièmement, la Banque centrale fixe un taux de réserve obligatoire. Les banques de dépôt doivent garder en réserve un certain pourcentage de la monnaie qu'elles récupèrent via les dépôts de leurs clients. Donc, impossible de prêter la totalité de ce que les clients déposent au guichet. Troisièmement, il existe une multitude de banques de dépôt. Via ces trois hypothèses, la théorie des réserves fractionnaires nous explique qu'une banque centrale doit pouvoir contrôler parfaitement la quantité de monnaie disponible dans l'économie. Évidemment qu'elle la contrôle, puisqu'on vient de dire que la banque centrale crée la monnaie. Oui, mais la théorie des réserves fractionnaires fait intervenir une autre forme de création monétaire. Elle dit que les banques de dépôt possèdent leur propre planche à billets privée, mais que la banque centrale les contrôle toutes indirectement. Inutile de vous embrouiller davantage, passons à un exemple pour que tout s'éclaircisse. 1. La banque centrale imprime 100 euros. 2. Un agent économique A se retrouve en possession de ces 100 euros. 3. Il dépose cette somme sur un compte à la banque 1. Celle-ci prend note que le ratio de réserve obligatoire fixé par la banque centrale est de 1%, c'est effectivement le taux en vigueur dans la zone euro, et constitue des réserves de 1 euro. Au cas où, 1% de 100 euros égale 1 euro. Ne me remerciez pas, c'est normal. 4. La banque 1 prête les 99 euros restants à un agent économique B. 5. L'agent économique B dépense ces 99 euros dans le magasin de l'agent économique C. 6. L'agent économique C dépose ces 99 euros sur un compte géré par la banque 2. Celle-ci constitue ses réserves obligatoires de 0,99 euros. 7. La banque 2 se tient prête à prêter les 98,01 euros restants. Faisons un premier arrêt à cette étape. A et C sont persuadés d'avoir respectivement 100 euros et 99 euros sur leur compte. Leur pouvoir d'achat est donc de 199 euros. Pourtant, il n'y a que 100 euros dans le système. La banque 1 possède 1 euro de réserve et la banque 2 possède les 99 euros restants. Mais alors, doit-on en conclure que seules les banques possèdent la monnaie? Et si tel est le cas, à quoi correspondent les 199 euros de A et de C? Les promesses de mise à disposition, le tour de passe-passe des banques de dépôt. Me voilà obligé de vous faire une révélation. Le montant qui est inscrit sur votre compte ne correspond pas à de la monnaie. C'est en réalité une promesse de mise à disposition de monnaie. Lorsque vous déposez 100 euros sur votre compte en banque, vous ne confiez pas 100 euros à votre banque, vous les lui prêtez. En retour, la banque inscrit sur votre compte qu'elle vous doit 100 euros. Elle s'engage à vous les rendre si vous en faites la demande. Et si elle n'arrive pas à respecter cette promesse, parce que, par exemple, elle n'a pas les fonds nécessaires, elle fait faillite. Ainsi, le montant inscrit sur votre compte correspond à une somme que la banque vous doit et pas à une somme réelle, disponible, qui vous attend au fond d'un coffre. La différence est subtile. Dans le premier cas, vous pouvez utiliser votre monnaie quand bon vous semble. Tandis que, dans le second, vous êtes dépendant de la capacité de la banque à vous fournir votre monnaie. Attention, pas de panique, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance aux banques. Laissez-moi le temps de vous expliquer et vous allez comprendre. Vous comprenez pourquoi A et C peuvent avoir l'impression de disposer d'un pouvoir d'achat total de 199 euros. Ce sont les promesses. Tandis que les banques possèdent la véritable monnaie, les 100 euros initiaux émis par la banque centrale. Si les termes de « vraie monnaie » et de « promesse » aident à la compréhension technique, ils prêtent à confusion. Les promesses sont en réalité aussi valables que la vraie monnaie et les deux se confondent. Encore une fois, vous allez comprendre au fur et à mesure. Je garde ces termes pour le moment parce que c'est le principe qui m'intéresse pour l'instant. Continuons. La banque 2 prête les 98,01 euros à un agent économique D qui les dépense dans le magasin de l'agent économique E. Je pense que vous devinez la suite. E dépose les 98,01 euros sur un compte géré par la banque 3. Celle-ci va garder 0,98 euros, puis prêter à l'agent économique F les 97,03 euros restants. Par ce petit jeu de dépôt, conservation des réserves obligatoires, crédit, les banques multiplient les promesses de mise à disposition de monnaie. Les montants inscrits sur les comptes en banque des agents A, C, E, G totalisent des promesses dont la valeur s'élève à 100 plus 99 plus 98,01 plus 97,03 plus etc. égale environ 10 000 euros. 10 000 euros de promesses pour seulement 100 euros de vraie monnaie. Cela veut-il dire que les banques ont multiplié la monnaie ? Oui, les banques ont bien multiplié la monnaie. Pensez aux agents B, D, F qui ont obtenu des crédits bancaires et réalisé leurs emplettes dans les magasins de C, E, G. Des marchandises ont changé de main. Les magasins ont enregistré un chiffre d'affaires. Dans mon exemple, la somme des dépenses de B, D, F, etc., est de 9 900 euros. Quelle est donc cette diablerie ? Si vous ne parvenez pas à comprendre ce qui vient de se passer, c'est parce que vous confondez flux et stock. Tout est normal, les plus éminents économistes font parfois cette erreur. L'économiste Michael Kalecki a d'ailleurs dit un jour « J'ai enfin compris ce qu'est l'économie. C'est la science de confondre les flux et les stocks. » Dans mon exemple, le stock de monnaie centrale est de 100 euros, la quantité de monnaie fabriquée par la banque centrale. Alors que le flux, la somme des dépenses, est de 9 900 euros. Finalement, c'est assez évident. Un billet de 10 euros peut changer de main 5 fois de suite pour régler 5 factures différentes, et donc engendrer une dépense totale de 50 euros. 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros. Tout simplement parce que les dépenses des uns sont les revenus des autres.